Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, tous les médias et toutes les formes de culture avec aujourd'hui une spéciale image qui bouge des séries et du cinéma. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu de notre invité culture. Ce sera aux alentours de 10h20. Bertrand Chamerois avant cela pour son écran de veille, puis Eva Rogue pour le zapping du lendemain. Et encore avant cela, dans quelques instants, le journal des médias d'Antoine Jonton et les audiences de Louise Bernard qui sont déjà dans ce studio. Nos indispensables du jour, je l'ai dit, spéciale image qui bouge. Notre infomédia avec Nice Matin, le grand quotidien de la Côte d'Azur qui lance aujourd'hui une nouvelle formule sur ses 3 éditions, y compris Monaco Matin. Oui, ça existe. Nous serons avec le directeur des rédactions, Denis Caro. Puis nos invités, Anne-Claire Coudray, présentatrice des journaux du week-end sur TF1, également rédactrice en chef pour un anniversaire, les 40 ans du JT de TF1. Alors auparavant, oui, il y avait bien des journaux télévisés sur la première chaîne, mais ils ne s'appelaient pas comme ça et pas avec cette formule, formule inventée par Jean-Marie Cavada. On vous en dira plus. Et puis enfin, Vincent Baghian, il est chanteur, auteur de chansons, notamment de la comédie musicale Mozart, l'opéra rock, Jamais là où on l'attend. Cet ancien publicitaire publie Émile Titan, Opération Salicorne, c'est un roman jeunesse. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Roulez Jeunesse, Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, Roulez Jeunesse.
Je le regrette, je l'ai dit, c'était pas dans mon texte. Au moment où je l'ai prononcé, je l'ai regretté. Bonjour Antoine Jonton.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Roulez Jeunesse, c'est pas piqué des hannetons au sommaire de votre journal des médias Antoine.
Je vais essayer de faire plus sobre. Hein. La série documentaire de la semaine, une plainte contre TikTok et un record de vente.
Mais d'abord, les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir?
Pas de surprise, hein, c'est l'ordre de la télécommande. 1, 2, 3, TF1 d'abord, Je te promets, c'était la suite de sa série adaptée de l'américaine This Is Us. 3 800 000 téléspectateurs, 17,6% de part d'audience, un petit peu en baisse, mais ça va. France 2, deuxième, Les Aventures du jeune Voltaire, pareil, suite de la série, 2 800 000 téléspectateurs, un petit peu en baisse également, 12,3% de part d'audience. Et France 3, le film Marche bien, La Faille, un thriller avec Ryan Gosling et Anthony Hopkins, pas mal, 2 400 000 téléspectateurs, 10,7% du public.
Culture Média.
Et on commence ce journal Antoine avec une série documentaire fascinante autour des médias, c'est à voir sur Arte ce soir.
Une série en 3 épisodes sur un mania de la presse, Rupert Murdoch. Il est à la tête d'un empire médiatique dont vous avez forcément entendu parler. Hein. Son nom c'est News Corporation. Il possède des dizaines de journaux dans le monde entier, le Wall Street Journal aux États-Unis, le Sun et le Times au Royaume-Uni pour les plus connus. À son actif aussi des dizaines de chaînes de télévision.
Welcome to Fox News World Headquarters in New York.
Buonasera a tutti, ben ritrovati con Sky TG24.
Tonight at 6 on Sky.
Un equipo. Un lugar. Todo lo que necesitas. Fox Telecolombia.
Voilà, Fox Telecolombia, la Colombie donc, le Royaume-Uni, l'Italie et les États-Unis au tout début avec Fox News, soutien de Donald Trump pendant la campagne présidentielle de 2016 et pendant son mandat. Ces chaînes, ces journaux font de Rupert Murdoch un homme incroyablement influent. C'est ce que raconte, entre autres, cette série documentaire initialement diffusée sur la BBC au Royaume-Uni. Elle revient aussi sur la manière dont Rupert Murdoch a construit son empire. Récit particulièrement puissant, c'est ce qui a intéressé les dirigeants d'Arte, Fabrice Puchot, directeur de l'unité Société et Culture d'Arte France.
On voit un homme grandir, un empire se former à coups de chantage, de raquettes, de fraude, de corruption, d'écoutes téléphoniques illégales, tout ça à l'intérieur d'une famille absolument dysfonctionnelle où tout le monde se déteste. Il y a une dimension de fiction sans même qu'on aille la chercher dans cette histoire de Rupert Murdoch et de son empire. Et par ailleurs, évidemment, pour une chaîne comme la nôtre, qui s'attache à essayer de trouver la généalogie des phénomènes qui nous occupent aujourd'hui, par exemple la polarisation du récit, la violence du débat politique, eh bien, c'est un film, une série qui nous permet d'observer comment un média peut instruire, donner une forme à la politique et finalement exercer un contrôle sur elle, l'orienter de façon assez grave pour la démocratie.
Rupert Murdoch, le grand manipulateur des médias, c'est le titre de cette série documentaire. C'est ce soir sur Arte à 20h50. Les 3 épisodes sont diffusés à la suite. Ils sont aussi disponibles en ligne d'ores et déjà sur arte.tv. Et si vous voulez entendre des extraits, eh bien restez à l'écoute de Culture Média. Eva Rock consacrera son zapping du lendemain à cette série. Ce sera tout à l'heure à 10h.
Bien sûr qu'on va entendre des extraits avec Eva Rock. Une plainte, autre chose, une plainte contre TikTok.
C'est l'UFC Que Choisir qui la dépose. L'association de consommateurs alliée à d'autres associations institutions européennes estiment que l'application préférée des adolescents, et la vôtre aussi Philippe, ne protège pas suffisamment les mineurs. Il n'y a, dit-elle, aucune mesure spécifique pour protéger ces utilisateurs considérés comme particulièrement vulnérables, et ce alors qu'on peut officiellement s'inscrire sur TikTok, donc dès l'âge de 13 ans.
On vous en a beaucoup parlé cet automne, l'article 24 de la proposition de loi dite sécurité globale va être réécrit.
Le Sénat va s'en charger, plus précisément les deux rapporteurs du texte devant la Haute Assemblée, Loïc Hervé et Marc-Philippe Daubresse, c'est lui d'ailleurs qui le dit au Figaro ce matin. L'article 24, vous vous en souvenez peut-être, prévoit de sanctionner la diffusion malveillante d'images de membres des forces de l'ordre. Cette nouvelle mouture sera examinée en commission dans 2 semaines et en séance dans 1 mois au Sénat. Donc.
Le prix Goncourt 2020 devient le 2e prix Goncourt le plus vendu de l'histoire.
631 500 exemplaires vendus de l'anomalie d'Hervé Le Tellier, chiffre donné par l'Institut GfK, et ça va probablement continuer à augmenter. Il dépasse ainsi le prix Goncourt de 2006, Les Bienveillantes de Jonathan Little, 618 000 exemplaires. Il reste encore un peu de chemin, cela dit, pour battre le numéro 1, L'Amant de Marguerite Duras, qui s'est vendu, tenez-vous bien, à 1 600 000 exemplaires. C'est quand même très très rare pour un roman. Gallimard, la maison d'édition de l'Anomalie, estime que les ventes pourraient à terme s'élever à 750 voire 800 000 exemplaires.
Et je crois qu'elle avait déjà du succès en fait avant d'être récompensée à Marguerite Duras, d'où la petite avance.
Et en plus, il y a eu un film. Et je me souviens que Hervé Le Tellier qui vendait 2000 ou 3000 exemplaires, la première fois qu'on a parlé de ce livre, L'Anomalie, c'était ici à ce micro, Nicolas Carreau. Gallimard, on reste dans l'édition, qui va publier un manuscrit inédit de Marcel Proust le mois prochain.
Ce sera l'occasion des 150 ans de la naissance de l'écrivain. La maison d'édition promet des écrits jamais dévoilés au public. Le titre, Les 75 feuillets et autres manuscrits inédits qui datent de 1908. Gallimard présente ses textes comme les fondations du chef-d'œuvre de Proust à la recherche du temps perdu, arrivé en librairie prévue le 18 mars.
Le film Mr. and Mrs. Smith va être adapté en série.
Oui, vous vous souvenez de ce film d'action, Philippe ?
Pas du tout.
Bon, l'histoire. Je vous donne l'histoire. Je vous redonne un peu le contexte. L'histoire de deux tueurs qui vivent en couple sans savoir ce que fait réellement l'autre. Ils dînent chaque soir autour d'un plat de viande et de légumes sans savoir qu'ils ont passé leur journée à tirer sur des méchants et qui finissent, ces deux tueurs, par devoir s'entretuer. Le film est aussi connu parce que c'est lors du tournage que Brad Pitt et Angelina Jolie se sont rencontrés. Ils ne reprendront pas leur rôle dans ce nouveau projet de série donc porté par la plateforme Amazon Prime Video. Ce sont Donald Glover, vu dans Tenet récemment, de Christopher Nolan, et Phoebe Waller-Bridge, la star de la série britannique Fleabag, qui seront à l'affiche. Deux acteurs qui ont déjà travaillé ensemble. C'était pour Solo, Star Wars Story.
Merci beaucoup Antoine Janton. Merci Louise Bernard. À demain tous les deux pour un nouveau journal des médias et les audiences. Dans un instant, c'est notre info média du jour avec la nouvelle formule de Nice Matin, quotidien de référence de la Côte d'Azur. On en parle avec le directeur des rédactions du groupe Nice Matin, justement, Denis Carreau. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
C'est une sorte de cadeau d'anniversaire pour son nouveau propriétaire Xavier Niel. Nice Matin vient de changer de formule, c'était samedi ce week-end, 1 an jour pour jour après le rachat du quotidien par le patron de Free. Une nouvelle maquette plus claire, un nouveau cahier central, quotidien et des articles plus nombreux. L'ambition du journal est de se relancer après des années agitées, marquées par une baisse de sa diffusion. Un objectif pour lequel les syndicats demandent davantage de moyens. Bonjour Denis Carreau.
Bonjour Philippe.
Vous êtes sur place, vous êtes en direct de Nice, vous êtes le directeur des rédactions du groupe Nice Matin, groupe qui comporte 3 titres, Nice Matin évidemment, Le Navire Amiral, Var Matin et Monaco Matin. Est-ce qu'ils sont tous concernés par cette ou ces nouvelles formules ?
Ils sont tous concernés par cette nouvelle formule qui vise à apporter davantage de clarté, d'élégance dans la présentation, mais surtout à faire évoluer le fond pour tendre vers une évolution de la qualité de nos contenus, parce que nous sommes convaincus à Nice Matin que c'est la qualité des contenus qui va nous permettre de gagner à la fois sur le digital, mais aussi permettre au journal papier auquel on croit toujours de résister.
Alors on va venir évidemment cette nouvelle formule sur le fond, on va la détailler cette nouvelle formule, mais d'abord un mot sur l'expression justement nouvelle formule. Certains patrons de presse ne l'utilisent pas, ils préfèrent parler de nouvelle maquette parce que, disent-ils, cela peut effrayer les lecteurs. Pourquoi vous l'utilisez-vous ?
Alors déjà parce qu'il n'y a pas de nouvelle maquette, on a fait évoluer à la marge la maquette existante qui fonctionne bien et que nos lecteurs auxquels nos lecteurs sont attachés. C'est une nouvelle formule et on assume totalement l'expression dans la mesure où on fait évoluer le fond, où on fait évoluer notre manière de traiter l'info locale. On voit que notamment sur le digital, ce qui permet d'aller chercher de l'abonnement, c'est les contenus de qualité, c'est les contenus exclusifs, c'est les enquêtes de fond. Ça n'empêche pas d'être dans la proximité, et c'est ce qui est intéressant dans cette évolution. On a eu tendance très souvent à fonctionner par réflexe en se disant que nos anciens lecteurs, c'est vrai que nos abonnés sont plutôt âgés dans l'ensemble. Mmh. La moyenne d'âge des abonnés, c'est 64 ans. On se dit qu'ils n'aiment pas être bousculés, mais en fait, nos lecteurs, ils sont modernes aussi. Ils évoluent avec leur temps et ils n'ont pas envie de se voir vieillir avec le journal.
Alors, il y a une maquette plus claire, plus lisible. Il y a plus de blanc, c'est ce que font en gros tous les journaux, toujours, tout le temps. On avait les gens de Paris Match jeudi dernier, ils nous disaient la même chose. En revanche, beaucoup plus remarquable, des contenus inédits, dont un cahier central avec un thème différent par jour. Expliquer ce cahier quotidien, quel en sera le contenu, déjà combien de pages ?
Alors, 16 pages quotidiennes, ce qui est assez important, c'est beaucoup. J'insiste sur ce point, alors que beaucoup de quotidiens font le choix de réduire leur pagination en se disant, oui, on voit que ça accélère très fortement sur le numérique, que le journal est en déclin, on va le laisser vivoter. C'est pas du tout le choix qu'on fait. Nous, depuis un an, on a augmenté en moyenne la pagination de 8 pages chaque jour, parce que c'est aussi l'expérience du premier confinement qui nous a rapprochés de nos lecteurs.
Pardonnez-moi, combien de pages comporte Nice Matin ?
On est en moyenne autour de 60 pages, on est parmi les journaux qui comportent le plus de pages. Et on s'est aperçu pendant le confinement que nos lecteurs avaient un vrai besoin de lecture, et ça ne s'est pas démenti depuis, et qu'ils attendaient de nous qu'on traite l'actualité lourde. On fait en moyenne entre 4 et 8 pages par jour autour de l'actualité Covid dans la région, mais ils veulent autre chose et ils veulent respirer. Et ces 16 pages quotidiennes qui sont articulées autour d'une thématique forte, c'est la gastronomie, c'est l'histoire et le patrimoine, c'est les enfants. Ces 16 pages, elles apportent cette respiration et elles permettent d'avoir autre chose qu'une actualité qui est indispensable mais qui est forcément anxiogène.
C'est thématisé, il y a 5 thèmes, un thème par jour, c'est même 7 thèmes, c'est bien ça?
C'est 7 thèmes. Il y a des thèmes qui existaient déjà, qui sont l'économie et la santé. Bon, la santé, c'est évident. Ça faisait déjà partie de notre identité et de nos points forts. On est le premier journal régional à avoir lancé, il y a plus de 15 ans, un cahier santé hebdomadaire qu'on a renforcé parce que
ça vient pas aussi, pardonnez ma question un peu perfide, ça vient pas aussi de la démographie de la région niçoise. On dit qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui vont sur la Côte d'Azur.
Alors, il y a effectivement beaucoup de personnes âgées sur la Côte d'Azur, c'est une réalité, mais c'est aussi beaucoup de clichés. Quand vous vous baladez à Nice, vous voyez que c'est pas une ville de vieux, et on a beaucoup de villes comme ça, qui sont des villes qui brassent beaucoup avec des populations jeunes. Donc, on s'adresse évidemment aux personnes âgées, et on en a beaucoup dans nos abonnés, mais on ne s'adresse pas qu'à elles.
Bien sûr, mais je faisais référence aux qu'elles sont le dimanche. Alors, je vais le détailler, il y a un thème par jour, l'économie le lundi, les loisirs le mardi, nous sommes mardi, les enfants le mercredi, les saveurs le jeudi, la culture le vendredi, l'histoire le samedi et la santé le dimanche. Vous avez de quoi faire pour remplir vos pages, notamment je pense à la culture parce qu'en ce moment beaucoup de choses sont fermées et la culture est un peu à l'arrêt.
Alors c'est vrai qu'on n'a pas choisi la facilité en lançant des thématiques autour de la culture et de la gastronomie pendant la période qu'on connaît, mais c'est aussi un pari. On se dit que sur la gastronomie par exemple, quand les restos vont rouvrir, il va y avoir un appétit, une envie énorme, et on sera là pour accompagner nos lecteurs. Et pour la culture, c'est un peu le même raisonnement. Effectivement, la culture souffre aujourd'hui. Nous, on est dans une des régions Lyon avec l'une des activités culturelles les plus fortes de France. C'est la région des festivals et des grands événements. Mais quelque part, c'est aussi notre responsabilité, notre rôle d'entretenir le lien, de donner la parole aux artistes, de donner la parole aux propriétaires de salles de spectacle dans ce moment où la culture est confinée et on trouve de la matière. Et c'est aussi l'avantage d'avoir une région qui a une résonance nationale. Ce qui se passe ici dépasse très largement les frontières de la Côte d'Azur.
Denis Caron, on parlait du jeudi auquel vous consacrez les 16 pages de votre cahier aux saveurs, à la gastronomie. Le groupe Nice Matin, je l'ai dit, c'est trois journaux, Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin. Journal très particulier puisqu'il parle des sujets qui intéressent beaucoup les Français, mais ça se passe à Monaco. Et à Monaco, les restaurants sont ouverts dans la principauté, les salles de spectacle également. Vous y allez, vous, à Monaco ?
Monaco, on y va régulièrement. On y est puisqu'on y est implanté.
Non, je veux dire les choses concrètement. Vous y allez pour déjeuner ?
Non, on n'y va pas. Moi, je n'y vais pas pour déjeuner parce que depuis quelques jours, les restaurants ne sont réservés aux gens qui travaillent à Monaco, ce qui n'était pas le cas il y a encore dans une période assez récente et qui a valu quelques polémiques, notamment avec Christian Estrosi. Mais c'est vrai qu'on a à quelques kilomètres de Nice une vie très différente à Monaco où les salles de spectacle sont ouvertes et fonctionnent très bien, ouais. Et où on voit des gens. Et ça fait bizarre quand on se balade à Monaco de voir les terrasses des restos pleines. C'est la particularité de la principauté.
Et c'est d'ailleurs la une de ce mardi, la une de Monaco Matin, les contrôles renforcés à la frontière entre la France et Monaco. Vous restez avec nous, on a encore plein de questions médias à vous poser. On va parler du numérique avec vous, Denis Caro. Vous êtes le directeur des rédactions du groupe Nice Matin, qui fait peau neuve depuis samedi. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Denis Caro, le directeur des rédactions du groupe Nice Matin, cela englobe Nice Matin, le navire amiral, mais également Var Matin et Monaco Matin, le groupe qui fait peau neuve depuis samedi avec une nouvelle formule. Une nouvelle formule qui a été conçue en partie sur la foi des résultats d'une étude réalisée par l'Institut Ipsos. Résultats, vos lecteurs vous ont demandé encore plus de proximité et d'informations utiles. Et ce lien avec vos lecteurs s'était déjà renforcé ces derniers mois à la suite de deux événements. D'abord le premier confinement, comme peu toute la presse en France, et puis le passage de la tempête Alex qui a dévasté, hélas, les vallées de la Vésubie et de la Roya. Comment allez-vous continuer à resserrer les liens avec vos lecteurs dans ces zones spécifiques ?
Alors, effectivement, on continue le travail qui a été amorcé après la tempête Alex, qui a été un événement absolument considérable. Toute la France a vu effarer les images de ces zones dévastées. C'était des scènes de guerre. Et aujourd'hui, on est dans un processus de reconstruction qui va durer des mois, voire des années. C'est des centaines de millions d'investissements pour reconstruire. Nous, on accompagne. Et pour une raison très simple, c'est que dès le lendemain, les habitants de ces zones qui étaient coupées du monde ont fait en sorte de nous faire passer des messages pour nous dire on a besoin du journal, on a besoin de ce lien. Et alors que les routes étaient coupées, on s'est organisé avec les collectivités ici pour, dès la semaine suivante, acheminer le journal vers les zones touchées. Et cinq mois après, on continue à livrer le journal et à le distribuer gratuitement dans des zones où il n'y a plus de diffuseurs de presse. Donc on a un rôle que du coup on a renforcé en renforçant notamment l'édition de Menton et de la vallée de la Roya dans notre nouvelle formule. On redonne de la force à ce secteur-là et on va accompagner, on va raconter la vie des gens. L'enjeu étant dans ces secteurs, dans les secteurs touchés, de maintenir la vie et de faire en sorte que les gens ne partent pas. Parce que l'enjeu est là aujourd'hui.
Bien sûr, il y a une grande tentation de partir et qui dit les habitants qui partent, ça désertifie, et puis il n'y a plus d'enfants dans les écoles, etc., etc. C'est une boule de neige, un cercle malheureusement vicieux.
Oui, il y a un vrai risque et c'est vrai qu'on a un rôle et on l'a vu dès le lendemain de la tempête. On a lancé des opérations de solidarité qui ont permis de recueillir des denrées, des produits de première nécessité, de recueillir des fonds et on a été submergé par la solidarité. Dès le lendemain, le hall d'entrée de Nice Matin était plein de vivres et dans ces cas-là, on voit qu'on se tourne vers nous. Alors après, on organise les choses, on se met en lien avec les gens dont c'est le métier, mais le premier réflexe, c'est de se tourner vers la presse de proximité qui est le lien au quotidien.
Réseau social depuis 1945, c'est le slogan du journal depuis avril 2018. On parle d'une nouvelle formule pour les éditions papier de Nice Matin, de Var Matin et de Monaco Matin. À quand la nouvelle formule numérique ?
La nouvelle formule numérique, ce sera pour normalement avant l'été. On est en train de retravailler complètement notre site. Un site internet, ça vieillit très vite. Le nôtre a 4 ans, c'est déjà presque de l'histoire ancienne et de la préhistoire. Donc on est en train de le refaire entièrement.
Vous le refaites comment ? Dans quelle direction ? Parce qu'évidemment, on refait toujours les sites, mais qu'est-ce qu'il y aura de nouveau qui n'existait pas auparavant ?
Là aussi, notre souci, c'est de ne pas être uniquement dans la cosmétique et de mettre en place un certain nombre de nouveaux rendez-vous qui vont renforcer le lien avec le lecteur. Il y a des choses qu'on a déjà lancées. Alors, c'est pas extrêmement original puisque les radios, les télés le font, mais nous, on en a fait un service à part. On a un service, La Rédaction Répond, qui chaque jour répond aux centaines de questions, voire aux milliers de questions des internautes et des lecteurs.
Pardonnez-moi, je vous interromps. Quelles sont ces questions ? Ce sont des questions d'ordre général ou ce sont des questions d'ordre local spécifiquement pour la région ?
Les deux, et c'est là où notre rôle est important. Il y a des questions très générales auxquelles il faut répondre tout de suite. Dès que vous avez des annonces de Jean Castex ou d'Emmanuel Macron, les gens veulent savoir précisément quelles sont les règles et quelles sont les règles qui changent. Vous avez des questions très locales et on est les seuls à pouvoir y répondre. Mmh. Et puis vous avez une dimension aussi qui est de plus en plus importante qui permet de démonter un certain nombre de fantasmes et d'aller à contre-courant d'un certain nombre de thèses complotistes. Un seul exemple, aujourd'hui on a une question alors qui surprend un peu quand on la voit comme ça, c'est est-ce que la 5G accélère la propagation du virus ? On a répondu à cette question ce matin parce qu'elle nous est posée par plusieurs internautes et c'est notre rôle d'apporter, pas simplement de répondre, mais d'apporter des démonstrations fiables et étayées.
Alors l'objectif de nouvelle formule, c'est de relancer la diffusion en baisse sur un an, moins 9%, 106 000 exemplaires par jour pour Nice Matin et Var Matin. Vous proposez d'ailleurs de nouvelles offres d'abonnement. C'est quoi votre objectif de diffusion et quelles sont ces nouvelles offres ?
L'objectif de diffusion, il est très clair, il est d'atténuer la baisse. Effectivement, comme l'ensemble de la presse régionale, on est confronté depuis des années à une baisse de notre lectorat et de nos ventes. Nous sommes convaincus qu'en améliorant le fond et en étant plus proche des préoccupations des lecteurs, les lecteurs, ils sont très attachés à nos titres, mais ils nous disent vous êtes un peu loin de ce qu'on attend. Donc fait en sorte de rectifier le tir. L'objectif, il est effectivement de se rapprocher de zéro. On ne va pas regagner des lecteurs, on le sait, c'est pas la tendance.
C'est endiguer la baisse.
On n'a pas la prétention.
C'est d'endiguer
la
baisse.
On n'a pas la prétention de l'inverser, mais on y arrive. Et depuis quelques semaines, sur Var Matin, par exemple, où on a fait des évolutions, on a commencé des évolutions éditoriales fortes depuis septembre, la baisse est moins accentuée qu'avant. Donc, quand on agit, on peut faire agir aussi sur le cours des choses.
Dans le numéro de samedi, il y a une double page pour présenter les femmes et les hommes qui font Nice Matin. Vous en avez sélectionné 7, 3 femmes, 4 hommes, un comptable, une chef de publicité, un coordinateur logistique, un des responsables des rotatives, 2 journalistes. Est-ce que c'est pour essayer d'amadouer les syndicats qui, eux, réclament plus de moyens ?
Non, si c'était pour amadouer les syndicats, je pense que la ficelle serait un peu grosse. Donc non, l'objectif, c'était vraiment de présenter à nos lecteurs une partie des 800 collaborateurs du groupe Nice Matin. Après, le dialogue social est une réalité dans l'entreprise. On est dans une entreprise de presse en pleine transformation. Vous le rappeliez en préambule, c'est une Nice Matin, c'est une entreprise de presse qui a été secouée ces dernières années par l'absence d'actionnaires, par des actionnaires successifs qui n'ont pas joué leur rôle. Et depuis un an et demi, depuis la prise de contrôle effective par Xavier Niel il y a un an quasiment jour pour jour, nous avons un actionnaire, nous avons la capacité de penser à l'avenir, de construire l'avenir et de transformer l'entreprise. Et c'est ce qu'on est en train de faire.
Justement, Denis Caro, puisque vous en parlez, Xavier Niel possède également 11% du capital du quotidien La Provence. Et parmi ses projets, il y a la construction d'un nouveau centre d'impression à mi-chemin entre Nice et Marseille, un site que Nice Matin pourrait donc partager avec La Provence. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres synergies entre les deux journaux ?
C'est un peu prématuré pour répondre et seuls, je pense, nos actionnaires savent précisément dans quelle direction ils veulent aller, mais il ne serait pas inconcevable que les deux groupes de presse du Sud-Est se rapprochent. Nous sommes des petits groupes de presse dans la carte de France de la presse quotidienne régionale et je pense que nous avons tout à gagner à nous rapprocher pour être d'autant plus forts.
Le groupe BFM devrait racheter Azur TV, qui est une télévision locale de la Côte d'Azur. BFM l'a annoncé il y a 2 semaines. Il s'agit de développer son réseau de télévision. On a beaucoup parlé ici, réseau de proximité et le site internet qui va avec. Est-ce que c'est un concurrent direct ou est-ce que c'est une offre complémentaire de la vôtre ?
C'est forcément un concurrent direct. À partir du moment où vous avez une rédaction qui s'installe et qui veut développer l'information de proximité, c'est un concurrent.
Ouais. Pardonnez-moi de vous interrompre, il n'y a pas que l'information, il y a aussi la publicité. Ils peuvent aussi prendre de la publicité.
Bien entendu, et on regarde ça de près. Le tout, c'est de nous, l'objectif, il est très simple, c'est de rester les meilleurs et de rester la référence pour le traitement de l'actualité dans nos territoires. On a un énorme avantage, c'est notre maillage territorial, c'est nos 180 journalistes sur le terrain qui eux aussi font de la vidéo, font de l'audio. Nous ne sommes pas BFM, mais nous n'avons aucun complexe et c'est le cas de Nice Matin mais aussi de l'ensemble de la presse régionale qui a de moins en moins de complexes par rapport à la presse nationale. Et quand vous ouvrez nos journaux et quand vous voyez un certain nombre de contenus samedi, Gérard Louvin qui est accusé de viol et agression sexuelle s'exprime pour la première fois, il s'exprime dans Nice Matin. Ce matin on a une enquête extrêmement complète sur une affaire qui secoue un centre d'ostéopathie avec des faits extrêmement, extrêmement graves. C'est du bon travail journalistique, c'est des équipes de grande qualité et bien entendu la concurrence de BFM, on va la regarder avec attention, mais ça va nous obliger à être d'autant plus réactifs et professionnels.
Merci beaucoup Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Nice Matin qui étreigne une nouvelle formule depuis samedi, c'est en kiosque, également Var Matin et Monaco Matin. À suivre dans Culture Média, un anniversaire, les 40 ans du JT présenté comme tel de TF1. Nous serons avec Anne-Claire Coudray, c'est la présentatrice et rédactrice en chef des journaux du week-end de la chaîne. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Anne-Claire Coudray.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans ce studio, rédactrice en chef et présentatrice des journaux du week-end sur TF1, vendredi, samedi et dimanche aux commandes du 20h et le samedi et le dimanche à la barre du 13h. TF1 qui fête les 40 ans du JT, pas le JT en tant que tel, mais l'appellation JT, c'est bien ça?
C'est ça, avant ça s'appelait TF1 Actualité et c'est devenu il y a 40 ans tout juste le JT de 13h, le JT de 20h qui est devenu finalement, je dirais pas une marque parce que c'est pas de cet ordre-là, c'est une appellation qui est rentré dans le langage courant maintenant.
C'était en janvier 81, Jean-Marie Cavada avait pris la direction de l'info de TF1 et il a abandonné la dénomination ancienne pour baptiser le journal JT. Il y a 40 ans, jour pour jour, donc c'était le 16 février 1981, Valéry Giscard d'Estaing était à l'Élysée. Vous savez qui présentait les JT de TF1 ?
Alors, ce jour-là, j'en sais rien, mais il y avait Yves Mourouzi, évidemment.
Au 13h.
Il y avait Jean-Pierre Pernaut qui devait faire aussi quelques journaux en
remplaçant. Mais bien avant Pernaut, c'était Jean Lefebvre. J'ai regardé, c'était Jean Lefebvre et le week-end, c'était Jean-Claude Bourret qui présentait. Et Yves Mourouzi, évidemment, qui était aux commandes du 13h. Je voudrais vous faire entendre un document européen. On est presque dans la préhistoire des journaux, mais enfin dans l'histoire plutôt, parce que la préhistoire, il faut remonter à 49. C'est Yves Mourouzi qui raconte les débuts du JT de 13h. Et on se dit que c'était pas gagné.
Évidemment, comme on mettait en place la chaîne, tout le monde allait attendre le premier 20h. Tout le monde se foutait du 13h. Ça n'existait pas la veille. Alors on a foutu une baie royale pour préparer ce journal. J'avais décidé qu'à 13h, comme on n'était pas beaucoup approvisionné de sujets venant de province ou d'ailleurs, il fallait qu'il y ait des invités. Alors j'avais invité quelques hommes politiques à venir pour le premier journal. Ils n'ont pas voulu venir parce qu'ils ne connaissaient pas la formule. J'étais obligé de faire le journal avec une marionnette qui ne s'appelait pas Petain.
Voilà, il raconte
Papotin.
Ses débuts. Ouais. Ouais. C'était avant 80, évidemment, c'était les débuts de Mourouzi.
Ça a bien changé. Hein.
C'était dans Mon œil, ça allait être ma question. Émission média présentée sur Europe 1 à l'époque par Jean-Luc Delarue. Ça a bien changé, dites-vous. Le 13h, c'est toujours le parent pauvre ?
Ah, pas du tout. Ah non, pas du tout. C'est, aujourd'hui, on a les capacités d'aller beaucoup plus vite qu'à l'époque. Je vous rappelle qu'on n'est plus aux bobines de films qu'il fallait développer.
Donc, figurez-vous que ça ne m'avait pas échappé.
Voilà. Et donc, aujourd'hui, évidemment, on a les moyens sur le terrain de fournir des reportages à 13h et à 20h sur l'actualité du jour. Et c'est marrant parce que j'en discutais avec Jean-Claude Narcy, justement, à l'occasion de ses 40 ans. Et il m'a dit, tu sais, moi, j'ai vu arriver le prompteur. Et le prompteur, ça a été le synonyme de l'arrivée aussi de la rigueur au niveau de l'écriture. C'est-à-dire qu'on ne débordait plus à partir du moment où on a eu un prompteur. Parce qu'avant, c'est vrai que les présentateurs avaient des notes, des chiffres, mais n'écrivaient pas forcément le journal comme nous, on l'écrit aujourd'hui. Mais on l'écrit aussi à ce point aujourd'hui parce qu'on a des reportages qu'il faut qu'on passe. Et quand Yves Mourouzi dit on était dans la pénurie de reportages, ben oui, il fallait bien combler. Et donc, ouais. C'était pas du tout la
je
même
approche.
Je souris
parce que je pense à Jean-Pierre Pernaut qui nous écoute certainement et qui, lui, refusait le prompteur. Vous savez qui ?
Alors, il refuse le prompteur, mais il a quand même des textes écrits.
Ah,
là, pour le coup, c'est une question.
Ah oui,
c'est
pas Mourouzi était parfois en mode impro total.
Mais complètement.
J'ai regardé ça. Vous savez qui a apporté le prompteur en France ?
Alors,
Philippe
c'est les États-Unis. Oui,
Philippe
alors,
Gildas, le premier qui l'a
amené. Ça venait des États-Unis. Et donc, c'est Roger Gicquel et Jean-Claude Narcy qui l'ont utilisé pour la première fois sur TF1.
Vous qui présentez les deux, c'est assez rare pour signaler. Quelle différence vous faites entre le 13h et le 20h ?
Alors, c'est compliqué parce que je n'ai pas tellement l'impression de changer de cerveau à ce moment-là ou de changer de prisme à ce moment-là. C'est vrai qu'à la mi-journée, là où vous avez raison, c'est qu'on n'est pas du tout dans la même solennité. C'est la même différence qu'entre le déjeuner et le dîner, où le dîner, on s'habille un peu mieux et où, voilà, il y a un côté très, très solennel. Le 13h, c'est très agréable parce que ça nous permet aussi de traiter des sujets très différents. Je vous donne un exemple. Par exemple, dimanche midi, jour de la Saint-Valentin, on a ouvert avec un reportage à Fâche-Tuménil où la mairie avait proposé pour donner aussi du travail aux artistes qui n'en ont plus en ce moment, eh ben d'aller chanter une chanson à ceux qui voulaient la dédicacer à leur dulcinée ou à leurs voisins ou voisines parce qu'ils avaient lié des liens très forts pendant le confinement. Ça, c'est un reportage qu'on peut se permettre de mettre en ouverture du journal à 13h, ce qu'on n'aurait pas forcément fait à 20h. Et donc voilà, les téléspectateurs sont souvent les mêmes d'ailleurs, mais ouais. Ils n'attendent pas la même chose du 13h et du 20h.
Et vous-même, qu'est-ce que ça représente pour vous, les JT ? Vous avez commencé quand, à quel âge à les regarder ?
Alors, à quel âge, j'en sais rien, mais très très tôt. J'ai toujours vécu avec les JT. On les regardait en mangeant le soir de façon assez religieuse. Donc oui, je suis une bébé JT. Et ça m'a nourri ma culture générale, ça m'a nourri ma culture politique et j'ai toujours vécu avec les JT. Et aujourd'hui, je ne serais pas qui je suis sans les JT, je pense.
Dans votre portrait de Libé du 9 juillet cet été, on apprenait quand vous étiez petite fille, vous allez vous coucher avant le film du dimanche soir, mais ouais. Après le 20h.
Ouais.
Histoire du JT, le premier JT a démarré dans l'indifférence générale, c'était en juillet 49.
Avec un accident de montgolfière.
Ensuite, ça a démarré vraiment le 2 octobre, 5 jours par semaine, ça durait un quart d'heure vers 21h, 100% de part de marché, mais il y avait seulement 1% des Français qui avaient la télévision, et l'édition du 13h existe depuis 1960. Vous-même, quels souvenirs marquants de JT vous gardez ?
Les grands événements, j'allais dire, la chute du mur de Berlin... C'est sans doute ça correspond à mon début d'adolescence et donc je pense à mon ouverture sur le monde, au fait que je commence à m'intéresser à tout ça. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé être sur place ? J'ai toujours le journal.
Je vous interromps tout de suite. La phrase que vous venez de faire. Vous avez dit « j'aurais aimé être sur place » et vous n'avez pas dit « j'aurais aimé présenter l'émission ».
Non, parce que j'ai commencé comme reporter de terrain. Et d'ailleurs, en tant que présentatrice, je retourne sur le terrain de temps en temps. Mais l'actualité permet d'avoir l'impression, en tout cas par procuration, de vivre les choses là où elles le sont et là où elles sont le plus denses. Et donc, c'est ça qui, moi, m'a nourrie quand j'étais petite fille, adolescente. C'est ça qui m'a donné envie de faire des études. C'est ça qui m'a donné envie d'aller sur le terrain, d'aller voir par moi-même. J'ai eu la chance d'avoir des parents aussi qui m'emmenaient en vacances. Et donc, j'ai ce goût-là de la découverte des autres et de l'ailleurs. Il est né dans ma jeunesse parce que le journal télévisé permettait d'être une fenêtre qui me donnait la possibilité de voir ce qui se passait.
On parle des 40 ans du JT de TF1 et on va vous entendre sur le terrain, Anne-Claire Coudray, juste après une courte pause.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Anne-Claire Coudray, présentatrice des JT de 20h le week-end, le 13h et le 20h le week-end. Le 20h, c'est le vendredi, samedi, dimanche. Et le samedi et le dimanche, c'est le 13h. Et nous parlons des 40 ans du JT de TF1 présenté comme tel. Vous parliez de ce qui vous avait marqué comme spectatrice. Et puis, il y a aussi des séquences qui vous ont impressionné. Mais plus comme spectatrice, mais sur le terrain. Une page spéciale au Mali, réalisée par vos soins. C'était l'hiver dernier, juste avant Noël. Cet hiver, un soldat français qui avait échappé de peu à l'explosion d'une bombe artisanale. Et quand ses enfants lui demandent en quoi consiste sa mission en territoire hostile, on est dans l'actu, mais on est également dans l'émotion.
Dans quelques jours, c'est Noël. Vous serez loin de vos familles, loin de la France. Est-ce que c'est un moment compliqué ?
Pour moi, c'est une période un petit peu difficile. Parce que je suis heureux papa de 3 magnifiques enfants et bientôt de 4.
Et est-ce qu'ils comprennent les enfants ?
On leur apporte des bons arguments, on va dire, que papa il est là pour assurer la sécurité des gens, qu'il est là pour le maintien de la paix. Donc forcément, on passe un petit peu pour le papa héros et c'est un petit peu ce qu'on recherche aussi quand on est parents. On leur dit qu'on les aime, qu'ils nous manquent très fort et que même si papa il est loin, on est toujours dans le cœur.
Pourquoi cette séquence vous a marqué, Anne-Claire Coudray ?
Mais parce que la parole des soldats français, elle est rare. Généralement, on est beaucoup dans le technique, dans le contrôle de soi. Et là, pour la première fois, on avait quelqu'un en face de nous qui se livrait. Qui se livrait sur une question qui est au cœur de leur engagement, en fait. Hein. Moi, pour faire de nombreux 14 juillet, je peux vous dire que l'engagement de ces soldats, c'est aussi l'engagement de famille derrière. Et nous, à TF1, on avait envie de s'intéresser à ça et de le montrer. Et puis, ce témoignage, il est d'autant plus fort que ce soldat, là, il avait échappé à un attentat quelques jours avant. Il était dans le véhicule de devant, celui qui a sauté sur la route. Et puis quelques jours après, surtout, on a eu plusieurs morts français dans des circonstances identiques. Donc c'était très important pour nous de montrer que les 5100 soldats au Mali, c'est pas juste un chiffre, c'est aussi des hommes, des femmes qui donnent beaucoup et qui font beaucoup de sacrifices. On a rencontré plein de parents d'enfants en bas âge qui ne passaient pas Noël avec eux. Et je crois que voilà, l'engagement français, il est aussi à ce prix. Et c'est d'autant plus intéressant en ce moment qu'on parle de l'opportunité de cet engagement. Et on a envie aussi d'entendre les hommes qui sont sur le terrain.
On entend des voix qui s'élèvent, qui disent que parfois l'actualité internationale, ça fait moins d'audience. Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Et
non, je sais que vous
tout.
Êtes très attentive aux chiffres.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Quand on a ouvert avec le Haut-Karabakh ou quand on a ouvert avec des reportages en Syrie ou quand on a ouvert avec des reportages à l'étranger, on n'a jamais vu... Ce qu'il ne faut pas, c'est lasser les gens. C'est-à-dire que quand on commence à feuilletonner et qu'on a... Mais jamais, jamais, on a hésité une seule seconde à ouvrir. Au contraire, non.
Hier, je recevais Karine Basterégis, qui est la présentatrice du JT Télématin et joker d'Anne-Sophie Lapix au 20h de France 2, qui me dit ne jamais... Regardez ces audiences.
Oui, alors ça, je suis...
C'est pas votre cas.
Alors, je n'arrive pas à comprendre ça. On est un journal de grande écoute. On a envie de savoir ce que les gens pensent de notre journal, s'ils ont suivi, si ça leur a plu. Donc non, évidemment, moi, je regarde les audiences tous les matins. Après, je passe vite à autre chose. Parce que notre drame, si je puis dire, c'est qu'on remet cette confiance-là en jeu tous les jours et deux fois par jour. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas en profiter très longtemps des bonnes audiences.
Là, ça marche bien pour vous.
Alors,
vous avez les chiffres de dimanche en tête ?
Oui, alors dimanche, ça a moyennement marché. Alors, on fait les difficiles parce qu'on s'est habitué à des chiffres très hauts, mais je pense que les vacances, le fait que deux zones soient en vacances, ça explique. Mais on est quand même avec un écart très confortable avec nos concurrents. Mais la part de marché, à 13h, ça a très bien marché, mais à 20h, un petit peu moins que le dimanche d'avant. Mais par contre, le samedi, il y avait...
Le 13h, 39,4% de part d'audience et le 20h, 28,3%.
Mais la veille, on avait fait plus de 30% à 20h. C'est compliqué, c'est de savoir ce qui se passe.
Je parlais d'un sondage à l'occasion de ces 40 ans du JT de TF1. TF1 a commandé un sondage pour l'occasion dont les résultats sont parfois surprenants. Alors d'abord, prévisible, TF1 est plébiscité. Je dis c'est pas surprenant parce que je vais dire les choses différemment. Imaginons qu'une chaîne commande un sondage et qu'elle arrive deuxième ou troisième. Jamais elle ne le rend public, elle le garde pour elle.
Non mais les audiences, elles sont publiques.
Imprévu. Alors qu'on pensait que les jeunes se détournaient de la télévision, 68% des moins de 30 ans considèrent le JT du soir comme source principale et importante de leur consommation globale d'infos, contre seulement 50% pour Internet et 55% pour les réseaux sociaux. Ça vous a surprise aussi ?
On le sait, on le sent frémir depuis quelques mois. Je pense que la crise qu'on traverse a aussi ramené les jeunes peut-être sur des sources d'informations telles que les nôtres. Et je dois avouer que ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir déjà parce que c'est évidemment l'avenir. dire, mais ouais. Ça nous fait plaisir parce qu'on a vraiment fait de gros efforts sur les thématiques qui pouvaient aussi les intéresser. Quand moi je fais sortir un robot qui va arriver sur Mars de l'écran dimanche soir avec Yannick Hézard le dimanche d'avant, et ben voilà, je suis contente de voir sur Twitter que ça les fait réagir, que ça leur plaît et que alors, ça leur parle surtout.
Justement, on apprend que les JT de TF1 partent à l'assaut des nouvelles audiences numériques. Il va y avoir plein de nouveautés à la fin de l'année. Un JT personnalisé, une émission sur Twitch dès mars, une multiplication des opérations sur TikTok. Vous allez faire des choses sur TikTok ?
Alors, on a déjà commencé récemment.
Vous-même ?
Moi, ben bien sûr, il faut donner de sa personne. En
vous
fait,
avez
c'était
dansé
assez
sur
simple.
Absolument la Macarena.
Il fallait que je leur explique comment était fabriqué un journal télévisé et que ça ne se préparait pas un quart d'heure avant l'antenne. Donc, on leur a montré la conférence de rédaction, on leur a montré après l'écriture du journal, on leur a montré la répétition des titres à quelques minutes du générique et ça a beaucoup plu. Je crois que j'ai fait 270 000 vues. Alors moi,
c'est votre compte perso TikTok ou c'est le compte de TF1 ?
Non, c'est le compte de TF1.
Vous n'avez pas encore de compte perso TikTok ?
Non.
Vous allez en prendre
encore. Si on me le demande pour faire d'autres vidéos, oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est très important, encore une fois, d'adopter ces codes-là.
Merci beaucoup, Anne-Claire Coudray.
Merci
vous n'êtes pas
vous.
Encore sur TikTok, mais vous serez évidemment vendredi soir sur le 20h de TF1 et samedi pour le 13h. Et on rappelle Jean-Pierre Pernaut qui sera l'invité d'Anne Roumanoff dans Ça fait du bien à 11h sur Europe 1, juste après Culture Média. Culture Média qui continue, il y aura le rappel des titres de 10h et puis on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un doc fascinant dont on a parlé avec Antoine Genton et puis Bertrand Chameroy pour son écran de veille qui va nous faire voyager. Notre invité a un parcours atypique, chant, composition, comédie musicale et il sort un livre jeunesse, je ne vous dis que ça, et puis dans les indispensables, une comédie romantique déjantée et une mini-série très décalée. Culture Média, vous le voyez, continue.
Europe 1, Culture Média.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.